Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. En plein cœur de la fête de Roland-Garros, dont Europe 1 est le partenaire officiel, il est bon de célébrer tous les sports, y compris ceux qu'on pratique avec des chaussures à crampons et sans raquettes. Alors, comme la Coupe du Monde du foot féminin démarre le 20 juillet, eh bien j'ai invité la pionnière, la légende du football féminin français, record woman jusqu'en 2020, du nombre de buts marqués et du nombre de sélections en équipe de France, hommes et femmes confondus. C'est Marinette Pichon, dont l'actualité est double, avec un film qui sort en salle le 7 juin, tout simplement baptisé Marinette, qui raconte une vie et un parcours hors du commun, et avec la réédition de son autobiographie chez First Edition, qui a pour titre « Ne jamais rien lâcher ». Je suis absolument ravie de vous accueillir. Bonjour Marinette Pichon.
Bonjour Isabelle.
Ravie de vous accueillir ici sous le soleil glorieux de Roland-Garros. Alors Marinette Pichon, vous êtes la première joueuse française de foot à avoir intégré la prestigieuse Ligue professionnelle américaine. Aucun joueur français ne l'avait fait avant vous. Et en 2002, vous avez été élue meilleure joueuse de cette Ligue américaine. Vous êtes donc une star du foot dans le monde entier. Sauf que en 2023, en France, au moment où nous nous parlons, eh bien, les femmes qui jouent au foot ne peuvent toujours pas accéder au statut de joueuse de foot professionnelle.
Oui, toujours,
c'est ça.
Toujours. Alors, il y a une information qui est sortie il y a très très peu de temps de la bouche du président Philippe Diallo, m'indiquant que cette ligue devrait enfin voir le jour au 1er janvier 2024.
Au 1er janvier 2024. Mais alors, parce que bon, j'ai appris que quand même il y a 10 pays dans le monde qui ont donné le droit aux femmes de faire du foot professionnel. La France, hélas, n'en fait pas partie. Et je me disais, comme la Coupe du Monde de foot féminin démarre le 20 juillet, c'est peut-être un contexte qui va faire booster les choses. Eh bien, pas du tout.
Ben non, pas du tout. Et puis, on est toujours à la recherche d'un diffuseur, d'ailleurs, sur l'Europe pour relayer cette compétition majeure. Et aujourd'hui, se tient un rendez-vous important avec plusieurs ministres des sports qui ont vocation à faire avancer les choses et puis surtout à entamer les dialogues avec la FIFA pour trouver un compromis et qu'on puisse être visible et à la fois en France et en Europe sur cette compétition.
Qui est une Coupe du Monde. Hallucinant.
Oui.
Bon, et puis Marinette Pichon, il faut dire que la disparité des salaires, elle est absolument prodigieuse entre les joueuses de foot et les joueurs de foot. J'ai appris que le salaire moyen d'une joueuse de foot en Ligue 1, en dehors des joueuses du PSG, est de 1 300 €, je dis bien 1 300 € par mois, alors que le salaire moyen d'un joueur de foot, toujours hors PSG, est de 67 000 €. Bien sûr, je parle pas des 6 millions d'euros de salaire mensuel d'Mbappé. Mais aux États-Unis, les salaires sont les mêmes pour les joueurs et pour les joueuses, n'est-ce pas?
Alors oui, maintenant, il y a eu un combat qui a été gagné par l'équipe américaine qui avait emmené la fédération en procès pour avoir gain de cause. Et après 5 années de combat, elles ont obtenu gain de cause et aujourd'hui sont sur la même parité salariale. Donc ça prouve que quand on sort un peu de ce silence et qu'on amène la révolte, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Et alors comme je suis curieuse, bien sûr, je vais vous demander, bon, la fédération américaine de foot donne aux hommes et aux femmes un même salaire qui tourne autour de combien?
Là, je pourrais pas vous dire parce que ça fait un moment. Moi, quand j'étais aux États-Unis, je gagnais 6 000 dollars américains par mois, ce qui à l'époque était juste exceptionnel pour moi. Je pense qu'on est peut-être entre du 20, 25, 30, peut-être au-dessus, mais honnêtement, je pourrais pas vous dire Isabelle exactement parce que ça fait un moment que j'ai quitté le contexte.
Bon, Marinette Pichon, on parle argent, mais le foot, c'est d'abord une passion. Le foot, c'est de l'adrénaline, des matchs partout dans le monde avec des enjeux fous, des stades entiers qui scandent votre nom, en tout cas qui le scandaient. Est-ce que vous aimeriez rechausser les crampons? Car vous avez pris votre retraite il y a à peu près 16 ans, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça vous manque?
Ben ça me manque pas vraiment parce que j'avais fait ce pas vers la retraite en me disant que j'avais d'autres choses qui m'attendaient, notamment le fait de fonder une famille. Aujourd'hui, je chausse les crampons essentiellement pour les matchs de gala,
oui.
Pour m'amuser avec les anciens de 98, avec le Variété Club de France, avec Patrice Bernier et ses amis quand je suis au Canada. Mais c'est vraiment pour des bonnes causes, donc essentiellement pour des matchs de gala.
Alors, aujourd'hui en 2023, il y a 220 000 licenciés dans le football féminin et vous y êtes pour beaucoup, Marinette Pichon, vraiment pour beaucoup. Tout a commencé, d'ailleurs je pourrais dire, il était une fois une petite fille de 5 ans qui vivait une enfance chaotique entre une maman très aimante et un père psychopathe, violent, pervers. Petite fille qui un jour, au cours d'une promenade avec sa mère, découvrit dans un stade des enfants heureux. Des enfants qui s'encourageaient en courant autour d'un ballon et en piquant des fous rires. Il n'y avait que des garçons, pas une seule petite fille. Je vous laisse raconter la suite.
Et puis, j'ai rencontré un éducateur fabuleux qui m'a approché en me demandant, en posant la question, en voyant mes yeux pétiller avec plein de petites étoiles, est-ce que tu as envie de jouer? Et je lui ai répondu, un stéréotype de notre société, non, je ne peux pas parce que je suis une fille. Il a éclaté de rire et m'a donné un dossard. Et puis l'aventure a commencé comme ça, de façon naturelle. Et puis je pense que son approche si simple, qui a banalisé mon intégration dans l'équipe, mon arrivée, a fait le reste auprès des parents et puis des enfants aussi. Donc ça existe, des gens bienveillants.
Donc, une semaine plus tard, après cette rencontre, vous aviez votre première licence à l'âge de 5 ans, c'est ça?
Oui, à l'âge de 5 ans, ma mère, qui ne s'est pas du tout opposée à ce que je puisse intégrer une équipe de garçons, jouer ou évoluer même avec que des garçons, elle m'a soutenue, elle m'a accompagnée. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai passé ma vie à taper dans un ballon.
Alors, Marinette Pichon, votre maman, elle était aide ménagère à domicile chez des personnes âgées. Donc, elle avait un tout petit salaire. Payer la licence, payer le short, le maillot, et puis les chaussures de référence, surtout, qui étaient les mêmes que celles de Michel Platini, les Patrick noires et vertes, c'est ça?
Exactement.
Bon, c'était beaucoup pour elle. Mais votre maman avait compris que le foot, pour vous, en fait, c'était bien plus qu'un sport.
C'était un exutoire, c'était un espace, un endroit où je me sentais moi, où j'étais valorisée, reconnue, où on m'acceptait comme j'étais. Et elle a compris ça, elle a vu ce bien-être, elle a vu qu'il se passait quelque chose en moi, que quelque chose avait changé. Et elle s'est pas posée de questions, c'était naturel pour elle de voir sa fille heureuse. Et puis, même si ça lui coûtait un peu, c'est vrai qu'elle a toujours été là. Et je me rappellerai toujours quand elle est arrivée dans la chambre avec cette paire de Patrick, toute neuve, où j'ai dormi avec la nuit. J'avais retiré la couette pour pas abîmer les chaussures. Enfin, c'est des souvenirs magnifiques, en fait.
Bon, très vite, dans le club de Brienne-le-Château, vous avez progressé au point de devenir un phénomène. Alors, bien sûr, vous étiez la seule fille, mais vous saviez dribbler mieux que les garçons, et puis vous aviez tout le temps le ballon, vous aviez le sens du jeu, en fait, vous saviez exactement où il fallait vous placer sur le terrain. En revanche, l'école, c'était la punition.
L'école, c'était l'horreur pour moi. J'ai regretté, bien plus tard, après, avec beaucoup plus de maturité et d'expérience, que c'était important de rester impliqué. Je suis retournée sur les bancs de l'école pour obtenir un master de management en club professionnel à travers le CDES de Limoges. Et quand j'allais à l'école, c'était pour jouer dans le ballon, pour taper dans le ballon, pour jouer avec les copains. J'attendais la récré, j'étais pas très motivée parce que j'avais pas cette appétence. Et puis pour moi, il y avait que le football. Aujourd'hui, c'est loin d'être le message que je relaie auprès des jeunes qui veulent avoir ce double projet, parce qu'une carrière sportive peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et c'est important de garder ça dans un coin de la tête.
Alors, je continue de dérouler le fil de votre histoire, Marinette Pichon. Sur le terrain, il est très vite devenu évident que vous étiez faite pour être attaquante et puis pour marquer des buts. Votre premier gros tournoi international, vous l'avez joué 48 heures après que votre maman ait un terrible accident de voiture qui l'a plongé d'ailleurs dans le coma. Vous aviez les nerfs à vif, vous avez pleuré les deux jours qui ont précédé ce tournoi, mais votre petit club de Brienne, vous avez réussi à faire en sorte qu'il se hisse en finale contre l'OM. Et juste avant le coup d'envoi, juste avant, il faut nous raconter cette histoire, c'est fou, parce que vous étiez la seule fille. Un attaquant marseillais vous provoque et vous insulte en disant « Dis donc, t'es une fille, toi, t'as rien à foutre sur un terrain de foot ». Alors la colère monte en vous. Et la suite, en fait, je crois que ce garçon s'en souvient encore, n'est-ce pas?
La suite, c'est qu'on va gagner le match. On va gagner sur le score le plus petit, 1-0. C'est moi qui vais inscrire le but de la victoire.
Et c'est vous, l'unique but.
C'est ça. Et puis, ce que j'ai aimé à ce moment-là, c'est le soutien de mes coéquipiers, mes camarades garçons de l'AS Brienne qui étaient là et qui m'ont dit, voilà, allez, continue, arrête, concentre-toi sur ton match et puis laisse-le penser ce qu'il veut, quoi.
Il est venu s'excuser après.
Ouais, à la fin du match, il est venu me voir en me disant je regrette de t'avoir voilà offensé. Et j'ai trouvé que c'était classe de sa part. Parce que il s'est rendu compte au final que j'avais des atouts techniques et physiques
c'est le moins,
à la hauteur de certains
c'est
de ses coéquipiers.
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que la seule fille de tout le match des deux équipes marque l'unique but contre l'OM, s'il vous plaît.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un phénomène, une légende, une pionnière. Je reçois celle qui a en fait fait émerger en France le foot féminin et qui est une star aux États-Unis, où elle a été élue en 2002 meilleure joueuse de la Ligue professionnelle américaine. Son nom, lui, est bien français, Marinette Pichon. D'ailleurs, c'est incroyable ce nom, Marinette Pichon. Ouais. On ne peut pas faire plus français. Hein.
On ne peut pas faire plus français. Et puis, il a tout un vécu, ce prénom, surtout. Ma mère a eu un petit échange avec mon grand-père qui avait eu un micro-coup de cœur avec une femme qui s'appelait Marinette, avec qui il ne s'est jamais rien passé. Et il lui avait dit, si un jour tu as une fille, j'aimerais bien que tu appelles ta fille Marinette.
Et voilà.
Donc je trouve pas facile à porter, mais vraiment une belle histoire.
Voilà, le nom de l'amour. Bon, Marinette Pichon, alors on continue de dérouler l'histoire de votre vie. À 16 ans, comme on l'a dit à l'instant, vous n'avez plus le droit de jouer au foot dans votre club de Brienne, où il n'y a que des garçons. Mais, vous allez être repérée par la présidente de l'Olympique Saint-Mimi, voilà, qui dirige une équipe de joueuses. Jusqu'à 16 ans, vous n'aviez joué au foot qu'avec des garçons, et puis soudain, ben voilà que vous jouez au foot avec des filles. Alors j'aimerais savoir, c'était plus facile ou finalement c'était plus complexe pour vous qui étiez habitué à n'être entouré que de garçons ?
Pour moi, c'était plus facile. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir grandi et d'avoir attrapé tous les automatismes des garçons, aller plus vite, contrôler plus vite, frapper plus fort, être plus dur dans les duels, quand j'ai migré vers le côté féminin, j'avais déjà cette petite étape d'avance qui me permettait d'être présente dans toutes les bonnes zones, toutes les bonnes les bons espaces du terrain, et puis surtout de mettre des frappes assez puissantes aux gardiennes.
Oui, parce que quand le foot est pratiqué à haut niveau, il n'y a pas tant de différence que ça entre le foot masculin et le foot féminin, ou si, tout de même ?
Non, il y a quand même, parce que la morphologie d'un homme et d'une femme sont quoi qu'il arrive, différents.
Il y a plus de puissance différent. En théorie du côté masculin.
Il y a plus de puissance, il y a probablement plus d'endurance. Enfin, il faudrait faire des tests vraiment plus poussés, mais on le sait que si on mettait notre équipe de France masculine versus notre équipe de France féminine, on prendrait une raclée. Pourquoi ? Parce que les garçons sont capables de faire des transversales qui vont de leur boîte des 16-50 jusqu'à la boîte des 16-50.
Et, voilà. et vous, les transversales, elles vont jusqu'où ?
J'y arrivais, mais...
Vous y arriviez, Marinette Pichon ?
Quand j'étais aux États-Unis, j'étais à l'apogée de mon développement de mon corps, et j'avais une masse musculaire extrêmement développée, et j'arrivais à avoir de belles transversales. Après, de les répéter, c'est une autre histoire.
Les joueuses de l'Olympique Saint-Mimi étaient-elles aussi garçons manqués que vous ?
Pas vraiment. Elles étaient au contact, des autres joueuses depuis toujours. Donc, il n'y a pas forcément ce côté qui s'est développé. Moi, c'est vrai qu'en étant côtoyant tous les garçons à chaque jour, en parlant avec eux, forcément, il y a quelque chose qui s'imprègne.
Il y a du mimétisme.
Il y a du mimétisme, ça s'imprègne et puis on fait avec. Moi, je l'ai pas renié parce que j'aimais ça, être entourée des garçons. J'étais leur chouchoute et je trouvais ça fabuleux d'être cette petite privilégiée avec son petit vestiaire, avec mon vestiaire. Arbitre, et puis toutes les attentions, donc c'était chouette.
À 17 ans, vous aviez un plan de carrière ou bien vivre en étant footballeuse, ça vous semblait impossible ?
J'avais pas du tout de plan de carrière.
Du tout.
Parce que si j'avais eu un plan de carrière, j'aurais certainement pas arrêté mes études très tôt et puis pensant me consacrer uniquement au football. Je l'ai regretté un peu pendant la phase où on va arrêter justement avec les garçons jusqu'à aller chez les filles, où je me dis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et heureusement, ma mère arrive et me trouve un emploi, le temps de
auprès de la mairie.
Voilà, auprès de la mairie, aux espaces verts, le temps de pouvoir trouver quelque chose qui me convienne le plus.
Alors, votre maman, elle a vraiment été toujours votre plus fervent soutien, mais votre père était l'être le plus nocif qu'on puisse imaginer. Il était alcoolique, les coups pleuvaient à la maison. Ça, c'est abominable. Sur votre grand-mère maternelle qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, il a un jour commis l'outrage le plus atroce. Il a d'ailleurs fait 10 ans de prison pour cela. Donc le foot vous a extrait de cet univers glauque et sordide, malgré tout l'amour que votre mère pouvait vous donner. Mais le foot vous a sauvé.
Le foot m'a sauvé. Si je n'avais pas eu ces moments de liberté, de dépenses physiques, psychologiques, je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de suivre un chemin tracé sans embûche. J'aurais peut-être tourné mal, j'aurais peut-être fait des bêtises, consommé de la drogue ou ce genre de choses. Et j'ai eu beaucoup de chance que ma mère et ma sœur soient à mes côtés pour me garder dans le droit chemin. Ça n'a pas été simple, évidemment, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus. Et puis, il faut quand même avancer et grandir, malgré tout. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de dire qu'il y avait cette solidarité du noyau familial entre ma mère, ma sœur et moi qui a fait qu'on est épanouie et que je suis apaisée, surtout aujourd'hui.
Alors reparlons foot, Marinette Pichon. Vous dites buteuse, parce que vous êtes une attaquante, une buteuse. Vous avez même jusqu'en 2020, vous aviez le record du plus grand nombre de buts marqués, 81. Prodigieux, hommes et femmes confondus, je le rappelle. Mais vous dites buteuse, c'est une race à part.
Pour moi, buteuse, c'est quelqu'un qui sent les coups, qui est capable de se trouver au bon endroit, mais qui est capable de répéter des gestes inlassablement pendant la durée d'un match jusqu'à trouver l'ouverture, qui va travailler dur, qui est dans son monde, on sait ce qu'on attend d'une attaquante. On attend la réception du ballon et puis un enchaînement, une frappe qui va délivrer l'équipe.
Donc,
Il faut une lame de leader et puis il faut surtout ne jamais rien lâcher parce que dans les enchaînements, ça va vite. On est en duel avec les défenseurs, très peu d'espace. Il faut être vive, il faut pas avoir peur du contact. Et c'est une race à part parce qu'on est comme les gardiennes, je pense, dans nos têtes, conditionnées pour marquer comme elles sont conditionnées pour arrêter des buts.
Alors, en 94, quand vous avez intégré l'équipe de France, Marinette Pichon, vous avez découvert que les joueuses n'avaient pas accès au château de Clairefontaine. Le château, c'était exclusivement pour les garçons.
Oui, exclusivement pour les garçons. Pourquoi ? Parce que on est quand même un football qui est naissant. On n'a pas tant de décennies derrière nous. Et il fallait faire ses preuves. Il fallait avoir des résultats pour pouvoir accéder à ce standing, à ce luxe. Chose qu'on a obtenue plus tard. Et ça a été une découverte. Il y a eu ces deux mondes entre les stages espoirs et puis le stage équipe de France où on était vraiment à dormir dans les chambres des internationaux et c'était une reconnaissance, c'était magique.
Enfin.
Ouais.
Bon, mais vous n'avez pas été heureuse en équipe de France. Vous avez même été suspendue pendant 6 mois pour avoir décliné un match alors que votre maman se faisait opérer d'un cancer. Il voyait que vous étiez totalement effondrée. Vous les avez suppliés de pouvoir rejoindre votre maman, d'être auprès d'elle, si jamais en plus les choses tournaient mal. Et on vous a suspendu. Pas seulement en équipe de France, on vous a empêché de jouer dans votre club.
Oui, c'est ça. Quand on décline une sélection, il faut en assumer les conséquences. Moi, j'avais fait mon choix. Après, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas forcément envie de revenir parce que ça s'est passé, ça s'est réglé ensuite. Oui. J'ai pu retourner en équipe de France. Mais il y a un cadre. Et ce cadre, à un moment donné, je ne l'ai pas tenu. Je n'ai pas respecté l'équipe de France et j'ai été sanctionnée pour ça. Si c'était à refaire, je le referais.
Mais l'équipe de France, les filles, on sent en lisant votre livre donc qu'il y avait quand même une jalousie. Vous étiez à part, vous étiez en permanence observé. Il n'y avait pas d'empathie pour vous, alors que vous étiez l'élément fort de l'équipe. Ça devait être compliqué à vivre.
En fait, moi, j'arrivais de Saint-Mémy, donc j'étais dans une équipe extrêmement bienveillante, avec des gens fort sympathiques autour, qui ne souhaitaient que notre développement, épanouissement. Donc, quand on s'entraînait, c'était dans la bonne humeur. Quand on jouait les matchs, c'était avec beaucoup de respect, beaucoup de fair play vis-à-vis de nos adversaires. Et je pense que j'étais juste pas préparée à cette concurrence que représente l'équipe de France quand on arrive pour se battre pour sa place. Et j'ai pris ça en pleine face, en fait. Et je venais de mon petit monde de bisounours et j'ai pris une claque. Et après, je me suis endurcie. Mais
on le voit très bien, ça, dans le film qui sort le 7 juin, en salle, Marinette.
Mais ça fait partie de la vie d'athlète de haut niveau que d'être confrontée à ce genre d'attitude.
Alors, Marinette Pichon, quand vous avez réintégré l'équipe de France, le championnat d'Europe a été un moment difficile à gérer émotionnellement. Effectivement, la majorité des joueuses vous adressaient pas la parole. Vous avez été éliminée dès le premier tour. Pourtant, les dirigeants du club de Philadelphie vous avaient repéré pendant l'Euro. Vous leur aviez tapé dans l'œil, pour parler familièrement. Et ils vous ont donc fait une proposition qui a changé le cours de votre vie, plongée dans le rêve américain, en signant avec la première ligue professionnelle féminine à Philadelphie. C'est ce qui vous est arrivé. Ça, vous allez nous le raconter dans un instant sur Europe 1. A tout de suite avec Marinette Pichon.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Le 7 juin prochain, la vie hallucinante de mon invitée, pionnière du football féminin français, mais star aux États-Unis où elle a joué pour la Ligue professionnelle. Le 7 juin donc, la vie de Marinette Pichon sera projetée en salle. Le film est porté par Garance Marillier, qui incarne Marinette, Sylvie Testu, Fred Testo, Émilie Dequesne, absolument bouleversante dans le rôle de votre maman. Et ce film a pour titre Marinette. Marinette Pichon, être repérée pour intégrer le plus grand club possible, bah, c'est bien sûr l'ambition permanente des joueurs et des joueuses de foot. Or, vous dites que ça se fait sur trois rendez-vous. Les championnats d'Europe, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Les recruteurs ne bossent en fait que là, sur ces événements-là.
Non, pas que, mais c'est là où les meilleures joueuses se retrouvent sur des instants clés. Donc pour eux, c'est limiter les déplacements et avoir un maximum de vivier à superviser. Donc pour tout ce qui est recruteur et scout, c'est le moment de se déplacer. Ces compétitions majeures sont souvent là où ils vont prendre des décisions de recruter pour leur club.
Alors, vous avez été repéré pendant l'Euro 2001 par le coach des Philadelphia Charge, la ligue que toutes les meilleures joueuses européennes, en fait, rêvent d'intégrer un jour, quoi. C'était carrément le Graal.
C'était le Graal, c'était le summum, c'était the league professionnelle. Donc, j'ai réfléchi quand même parce que je sortais d'un confort avec Saint-Mémy où j'étais la petite star, où j'avais pas besoin de faire mes preuves.
Ouais. Et là, on vous demandait d'être encore une plus grande star.
C'est ça. Et finalement, on a réfléchi avec le noyau familial et puis on a décidé, OK, on y va, j'y vais. Et puis, ça a été difficile au début. Et puis, à force de travail, de rigueur et puis de concentration, j'ai franchi toutes les étapes qu'attendait le coach pour devenir The Pigeon.
Alors, dans le livre qui est réédité chez First Edition, Ne jamais rien lâcher, vous dites en fait que dès que vous avez posé le pied sur le sol américain en 2002, vous avez pris une claque absolument monumentale.
J'arrive dans un monde totalement professionnel avec des gens qui vous accueillent avec une grande soirée événementielle qui est organisée pour la présentation de l'équipe avec toutes les différentes joueuses qui viennent de pays différents, avec un public complètement dévoué à la cause, avec des gradins pleins, bondés. Et je me rends compte que je suis dans un autre univers, dans l'univers du monde professionnel, et qu'on risque d'attendre énormément de moi.
On vous amène à l'hôtel Marriott, à Philadelphie, et là, vous découvrez une suite dont la chambre fait plus de 40 mètres carrés, c'est ça?
C'est exactement ça. Avec ma mère, on s'est dit, on va se perdre dans la chambre.
Parce que votre maman vous accompagnait.
Oui, c'était une des conditions. Je voulais que ma mère soit là avec moi les 15 premiers jours. C'était important parce que j'avais pas de repères, je parlais pas la langue, je ne connaissais personne.
C'est ça, parce que bon, c'est formidable, vous étiez totalement chaperonné dans un environnement luxueux, il y avait un climat d'euphorie hein, autour de vous, contrairement à ce qui s'était passé dans l'équipe de France. Vous rouliez en Dodge Durango, une voiture américaine de 6 mètres de long, voilà, tout était fait pour vous faciliter la vie, mais vous compreniez pas un mot d'anglais, comment vous avez fait les premiers mois?
Les premiers mois, je suivais les courses des attaquantes pour essayer d'aller là où le ballon allait se trouver. Et puis ensuite, j'ai pris des cours. Le club nous a payé des cours d'anglais avec les Tchèques, les Chinoises, les Allemandes et moi. Et puis c'était très drôle parce qu'il y avait très peu de rigueur dans ces cours. On rigolait beaucoup, mais au final, on apprenait énormément.
Alors,
c'était très
drôle.
Sur le terrain. Et puis, je crois qu'à un moment donné, on a eu cet échange avec ma mère qui m'a dit, mais tu sais, tu vas rester une année, donc autant prendre du plaisir, t'épanouir et puis essayer de développer ce potentiel que tu as en toi, car t'en es capable. Et ça fait tilt dans ma tête. J'ai raccroché, j'ai versé encore une larme. Puis je suis allée me doucher, me coucher. Et le lendemain, je me suis réveillée en mode l'Amérique m'appartient. Et c'était drôle parce que je suis arrivée sur le terrain, je communiquais mal. Hein. Ouais. En anglais, était loin d'être très, très, très bon. Mais je communiquais avec elle.
Mais on comprenait tout ce que vous vouliez leur dire.
L'essentiel. Donc voilà. Et ça s'est passé comme ça, ce déclic. Et après, je suis redevenue moi, la jeune fille qui rigole, qui s'amuse sur le terrain, qui prend des risques. Et j'ai eu raison.
Bien sûr, puisque vous avez remporté les plus grands trophées là-bas aux États-Unis. Mariette Pichon, en France, vous aviez 3 entraînements par semaine. En Amérique, vous en aviez 2 par jour. Mmh. Donc, qu'avez-vous appris à Philadelphie qu'on ne vous faisait pas travailler en France ? Les méthodes étaient vraiment différentes ?
Les méthodes étaient différentes. Alors, ça se rapprochait un peu de l'équipe de France quand on était en rassemblement équipe de France, parce qu'on était sur l'élite, donc on avait accès à des contenus bien plus élaborés. Mais les États-Unis, c'est à la fois un travail sur le corps extrêmement important pour s'assurer qu'il n'y aura pas de blessures ligamentaires ou ce genre de choses. Donc, il y avait beaucoup de renforcement musculaire sans charge additionnelle. Donc, on ne levait pas de poids. Et puis, il y avait beaucoup de travail d'endurance, de reprise d'appui. Donc, ça faisait un beau complément qui fait qu'on travaillait sur le muscle en profondeur. Et ça m'a permis de ne pas me blesser durant cette carrière professionnelle. Après, on m'a appris l'intensité aussi. Ouais. Il n'y a pas de temps mort. Le ballon sort, on remet un ballon dans le jeu et on court.
Il faut faire le show.
Ouais, exactement.
Votre mental, il a changé aux États-Unis. Je parle d'une manière globale, pas seulement sur un terrain.
Je dirais à 200%, il a changé. Sur le terrain, je suis devenue une guerrière. Je suis devenue une tueuse, entre guillemets. Dans toutes les zones devant le but, j'étais prête à gagner le ballon. Et puis, dans la vie aussi, parce que j'ai pris confiance un peu plus en moi encore. Ça a été compliqué et je me suis même révélée et surprise moi-même d'avoir pu développer cette confiance.
En fait, dès votre première saison à Philadelphie, vous avez marqué 14 buts et vous avez été élue meilleure attaquante et meilleure joueuse de la Ligue américaine. Mmh. C'est démentiel. J'imagine qu'en France, les joueuses de l'équipe de France qui vous battaient froid, elles devaient être assez estomaquées.
Ben, en tout cas, moi, j'ai été vraiment heureuse parce que j'y suis allée. Je n'attendais rien. Ouais. Donc, j'ai joué sans pression, sans me dire, attention, tu es regardée. Je savais que j'avais une année à faire. Donc
Avez tout décroché.
J'ai tout décroché. Et puis, je pense que je ne me suis même pas rendu compte à la fin que j'avais été aussi bonne que ça, aussi endurante, aussi régulière, aussi propre techniquement. Et quand je suis nommée MVP, je me dis, waouh.
C'est-à-dire meilleure joueuse.
Most Valuable Player, meilleure joueuse de la Ligue. Et ça, c'est, moi j'ai entendu des MVP pour Tony Parker et
c'est
autres et ça m'arrive à moi et ça, à ce moment-là et je me dis waouh, c'est fabuleux. Et puis il y a la reconnaissance de ses coéquipières, du championnat, des coachs et tout a été démentiel à partir de là.
Alors aux États-Unis, il y a aussi cette culture du sport spectacle. Tout est fait pour que les supporters vivent l'avant et l'après-match comme de l'entertainment. Et puis les abonnés ont accès au clubhouse où ils parlent aux joueuses. Vous aviez votre fan club américain ?
Oui, j'avais un fan club américain et ils étaient tellement adorables parce qu'avant chaque match, ils venaient avec des grosses boîtes de cookies de différentes sortes et puis ils donnaient à l'équipe et il y avait ces échanges très simples. On était vraiment dans du rapport de fan à athlète, mais aussi il y avait une proximité pour développer cette ligue.
Qui n'existe pas en France.
Qui n'existe pas et qui va, je l'espère, exister. Alors maintenant, dans certains matchs, il y a quand même la proximité avec les Lyonnaises, avec les Parisiennes, avec les Montpellierennes. Donc voilà. Mais j'aimais ça parce que, contrairement à la France, on allait chercher cette énergie auprès des fans. Ouais. On n'était pas obligé de se focaliser, de ne parler à personne, de rester concentré. Au contraire, eux, ils ont compris que d'aller au contact de ces personnes qui payent pour venir assister à un spectacle était bien plus aussi important d'avoir ce mot d'échange en amont de la rencontre que le terrain.
Alors, vous avez même initié une monkey dance hein, qui était reprise par vos fans dans les tribunes. Ça devait être extraordinaire. Et puis, j'ai appris qu'à Philadelphie, il y a un restaurant qui avait inventé le burger à votre nom, The Pichon Burger. Hein, formidable, voilà. Et comme vous étiez heureuse, eh bien, vous marquiez but sur but. Et c'est ce qui s'est passé lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde 2003. Seulement à la fin de l'été 2003, Mariette Pichon, Votre club à Philadelphie, donc, fait faillite. En fait, le modèle économique n'était plus viable. Et alors, bon, il vous a fallu rebondir. Vous avez signé avec la seconde ligue américaine. Mais en août 2004, vous avez dû rentrer en France. Mais pourquoi? Mais que s'est-il passé? Mais comment est-ce possible que vous, joueuse professionnelle, ayant décroché les plus incroyables trophées de la Ligue américaine, vous n'ayez pas obtenu la green card?
Ben, c'était un processus long, très long, et quand on a discuté avec mon avocat de l'époque, on savait que ça pouvait coincer à un certain moment. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce que la Ligue fasse faillite, parce que l'année précédente, déjà, on avait eu des réunions de crise avec les différentes équipes qui composaient cette Ligue pour se concerter, à savoir si on voulait accepter un cut sur salaire, une coupe sur le salaire.
Oui.
Pour pouvoir rester professionnel, ce qu'on a tout accepté, évidemment de bonne foi, pour rester professionnel la deuxième année. Puis la deuxième année, on a eu des postes de dépenses beaucoup trop
importants,
beaucoup trop importants, qui ont fait que la Ligue a chuté et les dettes étaient trop élevées pour pouvoir continuer.
Mais c'est fou parce que j'ai appris que vous aviez même reçu les encouragements de George Bush, le président des États-Unis, qui était un fan, qui était un supporter de Marinette Pichon, donc en fait, tout était en place pour que vous restiez. Aucun avocat n'a trouvé la solution, justement, pour que vous restiez sur le sol américain?
Non, aucun. Et puis, au final, aujourd'hui, je suis très heureuse de ne pas être restée.
Vous vivez au Canada.
Je vis au Canada, mais surtout, je n'aurais pas rencontré ma compagne. Je n'aurais pas cette magnifique famille avec mes deux enfants. Donc, on dit souvent que le destin fait bien les choses. Et en l'occurrence, pour moi, il l'a très bien fait, là.
Marinette Pichon. Des combats, vous en avez mené toute votre vie. Quand vous avez arrêté votre carrière de joueuse de foot, vous avez décidé à 40 ans de reprendre les études, comme vous nous l'avez dit au début de cette conversation, et vous êtes allée pour cela dans un centre très spécial qui est destiné aux anciens sportifs de haut niveau, et dans lequel, alors là j'étais très surprise d'apprendre cela, dans lequel Zinedine Zidane, Laurent Blanc et Emmanuel Petit étaient passés.
Et moi j'ai eu cette chance de passer... après leur promo, moi je suis de la promo 9 et je crois que Zinedine est de la promo 7 avec Brigitte Henriques également. Et ça a été un bonheur de voir un tel dispositif mis en place en effet par ce centre de droit d'économie du sport de Limoges et où tous les athlètes ont pu à un moment donné se dire comme je me suis consacrée à ma carrière, ben l'après-carrière n'est pas fichue, je peux quand même retourner aux études. Et le format est extrêmement bien fait. On est tous en provenance de différents sports avec des carrières assez somptueuses les uns les autres. Et grâce à ces personnes investies que sont... Jean-Pierre Caracchio notamment et Gérard Couder qui sont les leaders de cette organisation. J'ai pu obtenir ce diplôme.
Alors un diplôme de quoi, dites-nous.
Un master plus 4, manager de club professionnel.
Donc, après avoir été la plus grande attaquante de l'histoire du foot féminin, vous avez rédigé 4 mémoires et un dossier de soutenance.
Exactement.
Voilà, on changeait de décor là.
Je changeais de décor et j'ai aimé ça, être sur les bancs de l'école.
C'est vrai.
C'est comme si j'avais loupé toutes ces années et j'ai eu cette opportunité qui m'a été offerte et je l'ai saisie. Et j'ai beaucoup aimé, on discutait sur des tas de sujets, on avait des contenus hyper intéressants, hyper enrichissants, on avait des partages d'expériences de grands noms et ça restera deux magnifiques années d'études.
Alors aujourd'hui Marinette Pichon, après tant de records et de trophées, est-ce que vous avez l'ambition de diriger un club de foot féminin ?
Alors c'est le cas aujourd'hui, je suis directrice générale d'un club au Canada qui s'appelle le club La Salle Soccer. On compte 1400 licenciés.
Oui.
Des plus jeunes, donc du U4 jusqu'au senior. Et j'ai la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Alors aujourd'hui, on a des niveaux différents entre le Québec et puis des fonctionnements différents entre le Québec et la France. La France a tendance à aller chercher les fonds du monde professionnel pour alimenter la masse, la base.
Oui.
Alors que nous, on va chercher la masse pour alimenter l'élite. Donc... ça reste assez excessif en termes de prix pour les parents, mais on essaye de trouver des solutions de subvention. Et aujourd'hui, on évolue en provincial et on vient d'appliquer pour obtenir notre licence nationale, qui est le plus haut niveau pour avoir des équipes professionnelles.
Donc vous êtes un sacré directeur de club.
Ben, je suis une sacrée directrice de
Exactement. Alors, votre vie, elle se déroule désormais au Canada, où vous vivez avec votre épouse, Ingrid, et puis vos deux enfants, dont Gaël, l'enfant que vous rêviez vraiment d'avoir et que vous avez eu grâce à la PMA. Vous êtes devenue une Canadienne de cœur qui, tous les matins, se réveille devant le fleuve Saint-Laurent. Et vous dites que c'est absolument magnifique. Vous resterez au Canada ?
Alors pour l'instant, on va y rester. Alors il y a que Gaël qui est avec nous, notre grand est encore en France. Mais en tout cas, la vue qu'on a et ce bonheur de se réveiller tous les matins avec le soleil sur le fleuve, la tranquillité, l'apaisement. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée où on travaille beaucoup. Mais quand il s'agit de couper, on a des temps de qualité en famille et amis. Et c'est fabuleux. Et j'ai surtout, moi, la chance de travailler dans un club avec des gens très bienveillants et puis très compréhensifs. Et motivé pour développer ce club. Donc, c'est du bonheur tous les jours.
Alors, je l'ai dit, ne jamais rien lâcher et rééditer chez First Edition. Mais il faudrait aussi qu'on parle un petit peu plus précisément, je vais dire, du film poignant, mais fidèle. Hein, fidèle comme un documentaire, d'ailleurs, qui sort en salle le 7 juin et qui est porté par un casting très efficace. Émilie Dequen, Fred Testo, Albert Lenoir, Sylvie Testu et puis... La jeune Garance Marillier qui
et
vous
aussi
incarne.
Caroline Proust.
Et Caroline Proust. Alors, ce film a pour titre Marinette. Vous avez suivi l'aventure de très, très, très près.
J'ai été conviée sur le tournage il y a un an avec toute ma petite famille. Donc, on a pu assister pendant un an aux coulisses du tournage, à la façon dont les scènes se montent, se découpent, à toute l'importance des choses qu'on ne voit pas hein, quand on est devant en tant que téléspectateur devant le film. Et j'ai eu la chance de rencontrer Émilie, de rencontrer Garance, de discuter avec
Alors,
elle.
Alors justement, est-ce que Virginie Verrier, qui est la réalisatrice, vous avez demandé votre avis sur le choix de l'actrice qui allait vous représenter à l'écran ?
Virginie, que je salue et que j'embrasse, a toujours été top. Pourquoi ? Parce que quand on confie sa vie, on ne sait pas si elle va être respectée et si les grandes lignes vont être respectées. Et du début jusqu'à la fin, elle m'a associée, elle m'a toujours partagé ses envies, ses choix, sans me demander forcément une approbation sur certaines choses. Mais par contre, sur le scénario, de A à Z, elle m'a associée et elle nous l'a présenté avec ma femme pendant 4 heures. Ouais. Les temps forts, les temps faibles, ce qu'on voulait relater, pas mettre. Et elle a aussi rencontré ma mère et ma sœur pour aller chercher des anecdotes. Donc, elle a vraiment été d'une dimension humaine dans cette approche de réalisation.
Et puis, alors, la jeune actrice donc, qui vous incarne, c'est pas du tout évident, c'est Garance Marillier, c'est pas du tout évident de trouver une actrice qui, sur un terrain de foot, joue comme une professionnelle. C'est quand même incroyable. Pendant le tournage, est-ce que vous la coachiez ?
Alors pendant le tournage, ouais, on a échangé quelques attitudes, quelques aspects techniques, mais elle avait un coach hein, qui s'appelle Will, qui était à ses côtés, qui était là pour la mettre en condition. Elle a travaillé dur en salle, à la fois physiquement et en endurance, pour répondre à la sollicitation que demande le travail au corps en tant qu'actrice
mais
et
oui.
Notamment d'une athlète. Interpréter une athlète, c'est pas simple. Et puis, elle était surtout très inquiète de savoir qu'on était presque aux 3/4 du tournage qu'il n'y avait pas de possibilité de retour en arrière si ça ne convenait pas. Et au final, ça s'est très bien passé. Elle s'entraîne, elle joue déjà à une association qui s'appelle le Gadji FC, laquelle elle s'entraîne, elle pratique. Donc, c'est déjà une footballeuse. Donc, il suffisait de travailler les derniers aspects précis que souhaitait aborder Virginie.
On dit que le foot, c'est un sport difficile à filmer. Vous avez retrouvé dans les images la dimension physique justement de ce sport.
Oui, je trouve que les prises de vue, et c'était une de mes inquiétudes au final, c'était de me dire est-ce que ça va donner quelque chose de bien, d'assez réel dans le film. Et les choix de prise de vue, et là je suis pas assez experte et j'aurais tellement aimé que Virginie puisse vous parler de ça, mais les choix sont bien faits et ça reflète ce qu'on dégage sur le terrain.
Votre maman, elle est jouée par une actrice césarisée, hein,
oui.
Excusez du peu, Émilie Dequen, qui est bouleversante dans les combats qu'elle mène pour préserver sa fille, justement, de l'ambiance si toxique de la maison à cause d'un père qui est psychopathe. Alors, vous nous l'avez dit, le foot réellement, Marinette Pichon, vous a sauvé. Mais que diriez-vous, alors voilà, au terme de cette conversation, que diriez-vous à toutes ces adolescentes qui regardent avec leurs frères, leurs petits amis, leurs pères, leurs cousins, des matchs de foot à la télé et qui sont absolument passionnés, mais qui n'osent pas entrer sur un terrain. Vous leur diriez quoi ?
De prendre leur chance. Prenez votre chance. Allez-y. Vous avez envie de jouer ? avancez, allez discuter, venez en expliquant que vous avez envie de découvrir, que vous avez envie de vous amuser, de partager des valeurs que porte ce sport, des valeurs d'inclusion, de partage, de respect, d'émancipation. Et ça, je crois que ça passe par évidemment une discussion avec la famille et avec les gens qui sont les acteurs de terrain et qu'on a la chance d'avoir en France comme bénévole, comme éducateur, comme coach, comme sélectionneur. Alors allez-y, il n'y a pas de tabou, il faut vraiment avancer. Et puis surtout, le message que je souhaite passer, Isabelle, si vous me permettez, c'est si vous rencontrez vous aussi des difficultés dans vos vies, quelle que soit la difficulté, que ce soit de la violence conjugale, que ce soit de l'alcoolisme, que ce soit le problème de la place de la femme dans la société, le handicap, parlez-en, parce que libérez votre parole. Quand il y a plusieurs paroles qui sont libérées, on est plus écouté.
Il était évident que ce livre ait pour titre « Ne jamais rien lâcher ». Il est réédité chez First Edition. Je vous remercie pour cette heure intense passée avec vous, Marinette Pichon. Vous repartez bientôt au Canada.
Je repars bientôt en famille au Canada après la sortie du film dans les salles le 7 juin prochain.
Je vous souhaite un très bel été.
Merci à vous, Isabelle.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.